essais, découvertes scientifiques, bref, il y en aura pour tout le monde. Les incontournables de culture, saison 2024, à offrir, à partager, à déguster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Il est 15h et à 15h, on retrouve Marie Richeux et son book club. Bonne émission Marie et surtout bonne année.
Bonjour Aliette, merci beaucoup. Tout de suite, place au premier book club de l'année avec Jean-Marc Rochette.
Bonjour book club, bonjour monsieur Rochette. Je viens de lire votre livre et j'ai beaucoup aimé votre style, tout d'abord. Celui certainement d'un montagnard qui parle peu mais qui dit beaucoup. Une écriture simple et profonde à la fois.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Premier jour de l'année et cœur de l'hiver, aujourd'hui dans votre Book Club, dans un récit ponctué de quelques peintures, Jean-Marc Rochette raconte un hivernage passé avec sa compagne Christine Cam dans une maison coupée de toutes les routes par la neige et ce pendant 3 mois. Peu à peu, l'idée même qu'une civilisation humaine existe se dissout dans le blanc alentour, la lumière raréfiée et guettée chaque jour comme la trace ou les apparitions de quelques animaux sauvages. C'est le temps qui prend une autre texture, le corps dont on mesure la fragilité, l'allumette qu'on économise pour le feu. Jean-Marc Rochette est notre invité. Vers 15h50, comme chaque mercredi, Mathilde Wagman scrute pour nous les parutions à destination des plus jeunes lecteurs et lectrices. Et en fin d'émission, on continue à chercher de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales. Nous sommes ensemble pour une heure. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Jean-Marc Rochette.
Bonjour.
Soyez le bienvenu dans le Book Club. Bah, du coup, tous nos voeux à vous aussi.
Et à tout le monde.
Pour 2025. Votre livre « Au cœur de l'hiver » a paru aux éditions des Étages, maison d'édition dont la création est presque née de cet hivernage que raconte le livre. Ça s'emboîte, on y viendra tout à l'heure, ce sera le cœur de notre conversation. Mais tout commence ici toujours par un questionnaire lecture qui entend faire le portrait de nos invités en tant qu'ils ont été formés par les livres qu'ils ont trouvés ou pas sur leur chemin. Est-ce que vous vous souvenez où, quand, près de qui vous avez appris à lire ?
Oui, je me souviens, c'était après la maternelle. Je passais une maternelle à Lyon et après ma mère s'est retrouvée dans un petit village à Arnas. C'est dans le Beaujolais. Et j'étais un tout petit garçon et c'était à l'époque où c'était les écoles, on était tous ensemble. Mmh.
Ça existe encore, ouais, parfois.
Voilà, et je me rappelle, c'était un très mauvais souvenir parce que j'ai eu beaucoup de mal en fait à débuter dans l'écriture et dans la lecture. Donc je me souviens très bien. Je me souviens de la cour, je me souviens du lieu, je me souviens de un peu tout, comme on se souvient d'un accident.
Quoi. C'était très désagréable.
Oui, c'était très agréable puisque je confondais les lettres et tout ça. Donc quand tu commences déjà, tu mélanges tout. C'est Voilà, donc l'écriture et la lecture, au départ, c'était pas mon truc, quoi.
Et ça prenait la forme de... C'est-à-dire qu'à la fois, c'était un apprentissage difficile, mais aussi, vous n'aviez pas de curiosité pour les textes ou vous aviez quand même une curiosité pour les livres ?
Si. Parce qu'avant, on m'avait lu, je me souviens, un truc de Paul-Émile Victor avec un espèce de petit esquimau qui avait... Je sais plus le nom, mais j'adorais ça. C'était une passion pour ce livre. Et puis, quand il a fallu rentrer dans l'apprentissage, je me suis retrouvé, effectivement, il y avait ce sentiment d'être déclassé, quoi, en fait, dans un milieu où... Voilà, donc ça a commencé assez mal sur l'écriture.
Ça lisait autour de vous ? Vous parlez de votre mère, elle lisait, par exemple ?
Non, je me souviens pas de ma mère. Non, ça lisait pas trop, en fait. C'était un lieu...
Dans votre maison, il y avait des livres ?
Non, je me souviens pas de livres, en fait. Je me souviens d'une télé noir et blanc, je me souviens d'un chien, je me souviens... d'un hiver, mais je ne me souviens pas de lecture particulière.
Est-ce qu'il y a un moment donné où ça se détend un petit peu, ce rapport à la lecture ?
Ça se détend quand je découvre la bande dessinée, en fait. C'est vraiment c'est ce qui détend l'histoire, c'est Hergé, je crois que c'est Tintin, et c'est ces espèces de dessins associés à l'écriture qui vont, bon, ça plaît aux enfants, mais moi en particulier, quoi.
C'est-à-dire, vous y trouvez un territoire moins hostile
voilà,
que le début, quoi.
J'avais les espèces d'ondes alpha là, qui marchaient à fond. J'y croyais à dur comme fer, à ces bandes dessinées, quoi.
Ça arrive à quel âge ?
Oh, je dirais que ça arrive pratiquement derrière. Je pense que c'est l'année d'après, en fait. C'est parce que j'apprends à lire quand même. Donc après, je peux rentrer dans des bandes dessinées. Mmh. Des bandes dessinées qui sont quand même des chefs-d'œuvre d'un genre, quoi. Hergé, bon, ça restera. On peut dire que Tintin restera. Donc, il y avait une espèce de perfection dans ce que je lisais, quoi. Et donc, ça m'a plu énormément.
Vous les trouviez où, ces bandes dessinées ?
Oui, alors ça, c'est une histoire assez drôle parce que j'avais de mauvaises dents et ma mère me ferait un Tintin à chaque fois que je devais aller chez le dentiste.
Ça encourage ? Ça récompense, ça réchauffe le cœur.
Ça donne du courage, parce qu'à l'époque, c'était quand même c'est une forme de torture. Et donc, je lisais un Tintin à chaque fois, quoi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Tintin et que ma mère m'achète un Astérix. Donc après, on est parti sur l'Astérix. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est que chaque fois, c'était associé à la douleur et du plaisir.
Mmh. C'est resté comme ça, votre rapport à la lecture ? Ou ça a changé ?
Non, alors après la lecture, je me suis mis à lire plus et puis j'ai commencé à lire, effectivement, je me suis mis à lire et j'aimais ça en fait, lire des BD toujours un peu, beaucoup, et puis lire autre chose aussi, quoi.
Vous allez vers quoi par exemple ?
Bah, le tout début, je me souviens, bon, c'était Jules Verne, c'était le premier livre dont je me souviens bien, c'est L'île mystérieuse de Jules Verne. Avec une histoire de grains qui m'avait fasciné. De grains de blé, en fait. Dans l'histoire, c'est qu'il a, deux grains de blé. Ils ont deux grains de blé et puis ils commencent à calculer. Bon, l'année prochaine, on aura deux épis, donc on aura, je sais pas combien de grains. Et puis dans 5 ans, on pourra faire une tonne de blé, quoi. Et ça m'avait fasciné, ça. C'est le début de espèce de sentiment. Je me souviens de ça. Je me souviens dans ce livre, c'est ce dont je me souviens. Voilà. Après, je grandis et donc je commençais à les Russes, un peu tout. Quoi.
Ah bah vous grandissez beaucoup et très vite pour aller vers les Russes. Alors.
Bah là on a je dirais que j'ai 14-15 ans. Quoi.
Ouais, bah voilà, oui, bah voilà. Tout le monde ne lit pas les Russes à 14-15 ans.
Enfin, surtout l'idiot, et ça me plaît, ça, et puis...
Qu'est-ce que vous trouvez dans l'idiot de Dostoïevski à 15 ans qui vous plaît, Jean-Marc Rochette ?
Ce personnage un peu naïf, et puis ce monde, je sais pas, il y a ce côté... Je me souviens de gens, de ce personnage qui passait au travers d'une société. Je me souviens plus trop du livre, hein, mais je devais me sentir un peu comme ça, quoi.
Comme un effet miroir.
Ouais, quoi, c'est ça, comme un effet miroir, ouais. Et puis après, je lis quand même un peu. Je lis. Je lis, et puis après, j'arrête de lire parce que je me mets à faire de la bande dessinée. Donc, c'est quand je découvre vraiment les comics américains, enfin, surtout Crumb et tout ça, cette espèce de.
Comment vous les découvrez ?
Je les découvre parce que. Je lis Actuel, en fait. Actuel, c'était un livre,
un journal
par Bizot. Et dans Actuel, il y avait tous les Américains. C'est-à-dire, il y avait surtout Crumb, mais il y avait aussi Shelton, Corben. C'était la contre-culture de l'époque. Il soufflait une espèce de liberté qui était encore plus forte que ce que je trouvais chez Charlie ou Harakiri, tout ça.
Que vous lisiez par ailleurs aussi.
Que je lisais aussi, oui. Je me souviens très bien le premier Harakiri que j'ai acheté. J'avais l'impression d'être
sulfureux bonhomme.
C'était sulfureux. Je me souviens de la couverture. J'arrivais pas à croire qu'on puisse faire ça en France, quoi. Et puis donc, je lis ces gens-là, et là, je me dis, mais c'est ça que je veux faire, quoi. C'était vraiment, c'était de la dynamite, quoi. Donc, on était en début des, 1970, je pense, 74.
Vous vouliez faire de la dynamite plus que de la bande dessinée.
Alors à ce moment-là, ça m'a un peu arrêté sur mes velléités de peintre parce que je sentais que c'était là que ça se passait. C'était là qu'on pouvait. Il y avait une forme de liberté. Après, ça engouffrait des gens comme Villemain et ma génération. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et là, j'ai arrêté de lire en fait ce qu'on appelle la littérature.
Mais vous continuez à lire ces contemporains-là, ou à lire les gens qui faisaient du comics, ou à lire ceux qui faisaient de la bande dessinée. Vous n'avez pas complètement arrêté de lire.
Non, je lisais plus que ça, en fait. Ouais. J'étais devenu un auteur de BD qui lisait de la BD. Ouais, vraiment, quoi. C'était l'époque où Crumb était en pleine bourre. Il y avait Francis Mas, un dessinateur français, etc. Et Mandrika, Bretéché, enfin tout ça. Je trouvais qu'il y avait une inventivité, une créativité dans ce milieu. Et que je trouvais pas ailleurs, ni dans la peinture, ni nulle part. C'était une espèce de déchaînement. D'ailleurs, ça a fonctionné. peut dire que l'underground est quasiment un mouvement. Bah, il n'est pas reconnu comme le mouvement surréaliste, mais c'est pratiquement ça. C'est quand même un mouvement qui est...
Qui a produit quelque chose.
Qui a produit, surtout au niveau international. Ouais. On se connaissait tous. Il y avait les Espagnols, les Italiens, les Français, bien sûr, les Américains, le Japon, partout. Enfin, ça a été une espèce de... C'était une espèce de traînée de poudre qui suivait aussi le rock'n'roll, en fait. Et donc, oui, j'ai adoré cette époque. Ouais.
Et à ce moment-là, est-ce que vous demeuriez quand même sensible à ce qui était écrit ou vraiment vous étiez happé par le dessin ? Au texte ? Bah,
non, j'étais surtout happé par le dessin et je lisais... je lisais du genre aussi. J'aimais beaucoup Kazik, j'aimais... Des Français de science-fiction, des choses comme ça. Mais surtout, effectivement, j'étais fasciné par ce rapport texte-image. Et puis sur le côté sulfureux qui existait encore, c'était relativement mal vu, la bande dessinée. C'était, dans ma famille, faire de la bande dessinée, c'était un peu n'importe quoi, mais ça me plaisait bien. Quoi.
Quand est-ce que vous revenez à du texte? Du texte sans image, est-ce que vous y revenez, de quelle manière? Non, mais vous lisez pendant tout ce temps-là.
Ah oui, je lis.
Bah oui, arrêtez de dire que vous lisez pas, vous lisez.
Non, je lisais, mais je lis aussi. Bah, c'est marrant, celui qui m'a fait reprendre hors de la bande dessinée, c'est Le domaine de la lutte de Houellebecq.
Extension du domaine.
Ouais, exactement. Ouais, c'est quand je lis ça, je me rappelle le personnage me fait rigoler parce qu'il passait une télé, je sais pas qui.
Le personnage Houellebecq ou le personnage
du Houellebecq lui-même, la façon de fumer, la façon de s'en foutre de tout, il était très étonnant. Et je le vois et je dis, je vais lire son bouquin là. Et puis je le trouve, son bouquin était dépressif à souhait et en fait, je me suis dit, tiens, c'est marrant. C'est marrant d'être aussi dépressif. Et alors qu'il y a plein de choses qui sont très étonnantes, parce que dans le domaine de la lutte, il y a un moment où il se sent rejeté par la beauté du monde. C'est à la fin du livre, il est en Ardèche, je suis ardéchois, et puis il voit la beauté, et puis il se dit, de toute façon, j'aurai jamais accès à la beauté. Et ça, c'est une chose que, par contre, moi, j'ai accès à ça.
C'est ce que j'allais dire, c'est une sorte de chemin contraire à ce que vous écrivez et dessinez-vous. C'est un chemin contraire, voilà.
Et je me dis, tiens, moi, c'est l'inverse, quoi. Cette espèce de vie sordide qu'il écrit, et puis cette espèce de rejet de la beauté, ça m'a interrogé, en fait.
Ça vous a fait dire d'autres choses, en rebond ?
De lui ?
Non, ou de la littérature contemporaine, à ce moment-là ? Qui vous aurait intéressé ou nourri ?
J'ai beaucoup lu lui, parce que j'ai tombé là-dessus, et après, j'ai pas trop lu. Ce personnage un peu sulfureux qui m'intéressait, quoi, cette espèce de... Ça avait à voir avec ce que je faisais moi, ça avait à voir avec la bande dessinée underground, quoi. Il y avait ce côté un peu, voilà, quoi. Alors après, j'ai lu d'autres choses, j'aurais pas de nom.
Vous aurait autant marqué que la lecture de Houellebecq à ce moment-là.
Non.
Et aujourd'hui, la lecture occupe quelle place dans votre vie ?
Ah ben, je lis plus. Là, je lis. Et puis Christine, en plus, éditrice, donc on lit un peu plus, quoi. Il y a des gens que... Louis Meunier, par exemple, qu'on publie, j'ai adoré ses nouvelles de montagne. Enfin, j'aime tout ce qui est un peu sur la nature, quoi. Donc, j'ai bien aimé L'ours qui danse de Simone Sagreggio aussi, qui a une belle histoire. Mais ça a toujours un peu un rapport avec la fuite à l'extérieur, quoi. Enfin, je veux dire, la fuite en montagne ou les gens qui renoue avec ça, quoi.
Dans les thématiques, vous voulez dire ?
Oui, absolument, dans les thématiques. Ouais.
Et est-ce que ça a aussi à voir pour vous dans le geste ? Est-ce que pour vous, lire, c'est fuir ? Est-ce que c'est comme... Ce serait presque la même chose ?
Lire, je dirais que c'est rencontrer quelqu'un avec qui qui me dit des choses et avec qui j'ai des affinités, voilà. Voilà. Ah oui, dans les lectures, j'ai beaucoup aimé aussi l'américain qui buvait comme un trou, là, Bukowski, à l'époque, avant Houellebecq.
Pas des gens clean, quoi. Hein. Voilà, On sent bien. Jean-Marc Rochette, que vous, ce qui vous intéresse, c'est l'endroit où...
À cette époque-là. Ouais, parce que moi, je vivais quand même en banlieue parisienne, donc je sentais bien ce côté un peu trottoir et tout ça, un peu poivreau, le bord des trottoirs, tout ça, ça me parlait, puisque c'était un peu mon élément, quoi. Et non, quand je lis des choses, j'aime avoir une proximité avec la personne. J'aime pas qu'on m'énerve quand je lis. C'est-à-dire, si quelqu'un est, je le suis complètement
contraire,
j'arrêterai le livre, en fait. C'est pas que le livre est mauvais, mais...
Mais en même temps, vous dites que dans l'expérience contraire qui était décrite par Houellebecq dans l'extension du domaine de la lutte, c'est parce que c'était contraire que ça vous intéressait et que ça vous faisait penser.
À cette époque-là, oui.
À cette époque-là.
À cette époque-là, oui.
Vous avez changé.
C'est-à-dire que, oui, c'est vrai que maintenant, il y a, je vais pas citer de nom, mais il y a plein d'écrivains ou d'écrivaines qui sont dans un genre un peu comme ça, acide, qui pourraient m'intéresser, mais
ça m'intéresse moins. On va parler de votre livre Au cœur de l'hiver, et il est question d'un moment d'isolement, mais qui n'en est pas un complètement. Et sauf erreur de ma part, il n'y a pas beaucoup de livres qui traînent, il n'y a pas vraiment de temps consacré à la lecture, je me trompe, Jean-Marc Rochette ? Dans ce grand temps très particulier de l'hiver ?
Non, parce que déjà, la journée est quand même très prise par ce qu'on a à faire. Et puis c'est une époque, le premier hiver, puisque en question c'est le premier hiver dont on parle, c'est une époque où je dessinais La Dernière Reine, et donc je travaillais en fait énormément. Donc les 3 mois, la bande dessinée étant un métier ultra...
Oui, vous en parlez, ouais.
Ultra chronophage, et donc je dessinais, une fois que j'avais fait ce que j'avais à faire, le feu dont je parle, de tout ça, je me mettais à travailler, et ça ne demande pas beaucoup d'inspiration, la bande dessinée. C'est-à-dire qu'on peut travailler d'une manière... une fois que l'histoire a été écrite, le storyboard est fait...
Oui, vous parlez du labeur, quoi.
C'est du labeur. Donc, c'est un peu comme couper du bois, quoi. En fait, on le fait, quoi. Et donc, c'est pas comme la page blanche où il faut une espèce de grâce à un moment. Elle arrive ou elle n'arrive pas.
Bon, on imagine que ça dépend pour qui. Vous ne croyez pas ? Bon, il y a, à mon avis, autant de façons de faire de la bande dessinée que d'auteur ou d'autrice de bande dessinée.
Ouais, bah moi, j'ai un côté besogneux. Voilà. Quand je dessine, il y a un côté. Il y a des moments de grâce, et maintenant, je suis surpris sur la composition ou sur la façon dont je vais inventer par rapport au storyboard, où je trouve des solutions. Mais globalement, c'est quand même assez astreignant. Ouais.
Est-ce que vous avez une table de deux chevets ?
Une table de chevet ?
Un truc près de votre lit ?
Non, c'est au sol. C'est au
y a-t-il des livres au sol près de votre lit ?
Non.
Ok.
Non, mais c'est vrai que le livre, je les prends, j'ai une bibliothèque, je les prends, je les lis. Il y a un type que j'ai lu beaucoup, parce que c'est un ami, et puis je le prends pour un immense écrivain, c'est Robert Alexis. Robert Alexis qui a écrit La Robe, qui a écrit... c'est un écrivain très, très mystérieux, lyonnais, qui était au Tripode et chez... Corti. Je vais parler de lui parce que c'est vraiment une lettre qui m'est très chère et qui, en plus, écrit des livres que j'adore. Notamment La Robe, mais aussi U-Boat. Enfin, je conseille... Lui, je le lis, par exemple.
Okay.
Voilà. Lui, je le lis vraiment et je crois que j'ai lu toute sa production.
On va parler de votre livre, À vous, au cœur de l'hiver, juste après cette chanson de Cocteau Twins qui s'appelle How to bring a blush to the snow. Si j'essaie de traduire, ce serait comment faire rougir la neige.
See you.
Le Book Club, Marie Richeux.
Le cœur de l'hiver, ça se prépare, et c'est une affaire sérieuse quand la maison que l'on s'apprête à habiter pendant 3 mois, route fermée et neige à l'infini, se situe à 1600 mètres d'altitude dans la vallée du Vénéon, dans l'Oisans, au milieu des écrins. Alors, une première partie du récit autobiographique que vous écrivez sur la période mars 2020-février 2023, Jean-Marc Rochette, raconte cette minutieuse préparation, nourriture, matériel, cueillette. Ensuite viennent les jours où les humains se raréfient et où le tête-à-tête avec le vivant, les vivants tout autour, s'intensifie. Cet hivernage choisi donne sens à un retour au paysage aimé de votre jeunesse, un retour par l'amour, car il y a un autre tête-à-tête essentiel dans ce livre, celui que vous vivez avec votre compagne Christine, près de laquelle une neige intérieure accepte de fondre doucement. Les avalanches ont des noms, le bleu du ciel doit se chercher, la mort et le danger doivent s'éviter. Et les montagnes se regardaient bouger dans leur apparente immobilité. On parle avec vous de ce texte Au cœur de l'hiver, paru aux éditions des Étages. Tout à l'heure, vous avez parlé du labeur de la bande dessinée. Ici, il y a des peintures régulièrement qui ponctuent le texte, mais c'est quand même surtout un texte, Jean-Marc Rochette. Est-ce que c'est moins de labeur? Est-ce que c'est plus de plaisir? Tout à l'heure, vous parliez de votre rapport au livre, une sorte de petit attelage entre la douleur et le plaisir. C'était quoi comme attelage pour ça?
Ah, pour moi, l'écriture, c'est vraiment, ça a été vraiment du plaisir, en fait. C'est du plaisir parce que c'est une matière qui résiste beaucoup moins, quoi. C'est les mots décrivent la matière très bien, d'ailleurs. C'est ça, ça a été ma grande surprise, la capacité de décrire un paysage. Et dans une fluidité mentale, en fait, on n'est pas accroché par le papier, on n'est pas accroché par la peinture, par l'aquarelle, rien du tout. Ça, si ça sort, c'est jubilatoire, en fait. Vraiment jubilatoire. C'est une chose que je pouvais pas imaginer qu'on prenne autant de plaisir dans la vie, quoi.
Mais c'est tout récent, cette découverte-là? Parce que c'est pas comme si vous n'aviez jamais écrit. Les mots, quand même, étaient là.
Oui, mais il y a écrire. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai écrit Le Bestiaire des Alpes, où c'est des espèces de petites fabliaux sur les animaux, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ça. Alors, on n'écrit pas une lettre, on n'écrit pas un scénario. Il y a un plaisir de la langue, il y a des espèces de rebonds à l'intérieur des phrases, tout ça. Et oui, ça m'était un peu, on revient à Arnas au début, où j'avais tant de mal à écrire, donc ça m'était un peu interdit, quoi. Et j'ai vu que, en fait, j'arrivais à écrire assez facilement, en fait, finalement. Et donc ça, c'était des nouvelles sur des animaux. Et quand j'ai écrit ce livre-là, donc j'étais un peu sceptique, et puis il est sorti très vite. Je l'ai écrit en hiver, en fait. J'ai écrit en 3 mois, quoi.
On va écouter un premier extrait. Le hameau des Étages n'est plus habité depuis l'hiver 1962. Lassés par la dureté du climat et par l'isolement, ses habitants, petit à petit, l'ont déserté pour aller trouver du travail plus bas, au bourg. Les unes contre les autres, ces maisons se blottissent, formant un étroit chenal de murs de pierre et de toitures de tôle, chenal qui part du torrent et remonte jusqu'au premier pierret. Les habitations sont ainsi disposées car 2 imposants couloirs d'avalanche enserrent et menacent le minuscule village. Les montagnards ont su trouver le seul endroit et la seule configuration possible pour vivre ici. À l'époque, chaque famille était autonome. Ils avaient une vache, un cochon, des poules. Les caves étaient pleines de pommes de terre, de choux et de tout ce que cette terre pauvre était capable de produire. Il y avait un moulin au bord de l'eau, un four à pain et une petite école. Pendant les 3 mois d'hiver, la route était fermée, 7 km d'un chemin escarpé, coincé entre le vide et la falaise, 7 km souvent recouverts par les coulées de neige où personne n'aimait se risquer. Le facteur était le seul à passer. De décembre à avril, les Étages se transforment alors en île. Un esquif fragile, perdu dans un océan de poudreuse et de granit gelé. Certains jours, ils sont bénis. Le ciel est bleu, comme nulle part ailleurs. Une lumière aveuglante irradie les sommets qui croulent sous une blancheur de paradis. Et pourtant, depuis 1962, dans les ruelles enneigées, ne subsistaient plus que les traces d'animaux, unique passage de l'hiver. Une demeure se détache du petit amas de maisons. On la remarque facilement. Là où les autres étouffent ensemble, elle respire au large. C'est la nôtre. Nous l'avons achetée au printemps 2017. Voilà, ça va être notre décor de lecture quand on arrive dans votre texte, Jean-Marc Rochette. Et puis, on ne va pas beaucoup le quitter, mais on le quittera quand même parce que c'est un texte qui opère quelques allers-retours avec le passé. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel cadre vous rejoignez cette maison avec Christine, votre compagne ? Ce n'est pas n'importe quel moment collectif, cet hiver-là.
Oui, alors, ce qui a suivi le Covid, en fait, on s'était fait coincer à Paris, comme tout le monde. Et enfin, en tout cas, comme beaucoup. Et donc, on a décidé au bout d'un mois que ça suffisait. Et donc, on s'est échappé pour aller dans ces montagnes parce que l'enfermement me pesait. Et donc, on est monté là-haut. C'est monté là-haut. Ouais. Et on y est resté en fait parce que je me suis dit puisque la société est capable de produire une telle densité de je sais pas. Pour moi, j'étais comme un chamois en tôle, quoi. Ça m'a vraiment déplu profondément. Et donc, on a décidé qu'on allait vivre là-haut. Et c'était rechercher la liberté, clairement. Je pense que je me suis toujours posé la question pourquoi des gens allaient se mettre dans des endroits aussi pauvres, aussi dangereux. Et en fait, je crois que le sujet, c'est la liberté. C'est qu'ils voulaient pas, ils voulaient pas, ils voulaient pas subir l'État, ils voulaient pas subir. C'est comme les chamois. Par exemple, les chamois, au départ, c'est un animal de forêt, mais à force d'être chassé, il a accepté de vivre avec très peu de nourriture.
Donc l'isolement et la liberté vont de pair, quoi.
Je pense que là-haut, oui, je pense que dans ces endroits-là, c'est parce que faut se décrire un endroit qui est très très austère. C'est pas Courchevel, hein. C'est une vallée qui est très très encaissée, où il y a énormément de pierriers, il y a très peu de forêts. Enfin, c'est un lieu qui est quand même, il y a beaucoup de gens qui peuvent détester ce lieu.
D'ailleurs, il y a une scène assez inaugurale de votre récit où vous traversez tous les deux comme ça cet endroit-là, et puis par la fenêtre, Christine Cam trouve l'endroit beau et vous êtes presque surpris de ce rapport à cet endroit.
Oui, ça m'a fait penser un peu à la leçon de piano, c'est-à-dire cette femme qui arrive dans un endroit pluvieux, et je me disais, mais elle va pas du tout aimer cet endroit. Et puis finalement, elle a dû sentir cette espèce de grandeur, parce qu'il faut avouer que en bas, il y a les montagnes qui sont en dessus, quoi. Et c'est-à-dire que si vous levez le nez, là, d'un seul coup, vous voyez une pyramide, vous voyez un 4000 mètres, c'est-à-dire quelque chose qui est étincelant. Enfin, c'est quelque chose qui est d'une beauté, enfin moi, qui est une beauté qui me foudroie, quoi.
Et d'ailleurs, c'est l'occasion, dès le début du texte, parlant de ce retour, de cette décision d'hiverner dans cet endroit, Jean-Marc Rochette, de parler de plusieurs temps de votre rapport à la montagne. Donc, je crois que c'est le chapitre tout de suite après, où vous parlez de la rencontre inaugurale, comme dans un premier temps d'un mariage avec une déesse, mariage qui se finit pas bien. Est-ce que vous pouvez nous dire ce moment où ça s'accroche, puis il y a encore un autre moment où ça s'accroche, puis ça se décroche, c'est le cas de le dire. Et puis, il y a encore un autre moment où ça se réaccroche entre vous et la montagne. C'est un peu cette histoire-là aussi que raconte le texte. C'est pas qu'un hiver passé dans cette maison.
Non, l'hiver, c'est le fil du collier, en fait. Et oui, le truc inaugural, c'est que c'est un col qui s'appelle le col du Jobernet. J'étais très jeune et j'ai vu une forme de beauté.
Vous êtes enfant, vraiment ?
Je suis enfant, ouais. J'ai 12-13 ans, peut-être 12 ans, 12-13 ans. Et j'arrive à un lieu qui, moi, me bouleverse. Ces rapports de ton, cette netteté, comme je dis, la glace. Un lieu sans souffrance, parce que un lieu sans vie, donc sans vie organique, ou très peu. Donc, il est toujours identique. Il y a une forme de chose qui est éternelle. Je sens tout ça et en fait, je me dis, mais c'est là.
Mais sans souffrance, parce que pas d'humain, c'est à ça que vous rattachez ça?
Pas d'humain et peu d'animaux. Ouais. Ça, c'est le côté un peu, on vit, on meurt, on souffre, mais là-haut, il n'y a pratiquement rien. Enfin, donc, c'est un espèce de lieu purement esthétique. Mmh. La forêt vierge, par exemple, c'est un endroit qui hurle. Enfin, moi, j'étais un peu au Congo. Là, quand la nuit tombe, ça hurle. Ça, on sent des combats, on sent des choses comme
là,
ça.
Là, il y a du blanc au sens où les choses baissent le volume.
Ça baisse le volume et on est dans du minéral. Enfin, je sais pas si la pierre souffre, j'ai pas trop l'impression, ni la glace, quoi. Il y a une espèce d'objet comme ça qui est hors de la souffrance. Enfin, je dis ça et une beauté cristalline, en fait. Et tout ça, je le dis maintenant avec ces mots-là, mais à l'époque, j'ai simplement senti que c'était incroyable, quoi. Et j'étais très déçu de m'arrêter simplement à Skol, alors qu'en dessus, il y avait encore des montagnes plus hautes, et j'avais l'impression qu'il fallait monter, quoi. Et à partir de ce moment-là, je me suis fait, c'était mon but, en fait, c'est de devenir un grimpeur.
Donc vous grimpez, vous montez, jusqu'à un jour que vous racontez dans Au cœur de l'hiver, où il y a un accident très important qui stoppe pour un temps cette histoire d'amour avec la montagne.
Oui, tout à fait, j'ai un accident assez... Alors pour le coup, là, la souffrance, je me la prends bien, bien comme il faut, et le corps... Le corps, en fait, veut plus, a peur, en fait. Il a clairement peur. Et quand, en montagne, on a peur. Parce que quand t'as 20 ans, tu te sens un jeune immortel. Enfin, rien ne te résiste. Et puis d'un seul coup, ça s'arrête, c'est l'accident, quoi. Alors, ça peut être terrible. Ça peut être, tu perds l'usage de tes jambes. Mais en gros, à partir de ce moment-là, je retombe au sol, quoi. Et donc je fais de la BD. La BD, j'invente des personnages atroces et tout ça. Je retombe au sol. Je tombe dans la soue, en fait. Je passe du blanc et du bleu à la soude, voilà. Donc c'est un peu l'histoire de ça. Et après c'est une longue. Il a fallu que je remonte. Et ce livre, en fait, c'est au moment où je reviens sur les traces de cette illumination, on pourrait dire.
Parce que vous êtes à Berlin, vous travaillez à Berlin. Il y a quelque chose, voilà, qui est presque opposé à ces montagnes qui vous ont tant ébloui enfant, Jean-Marc Rochette. Et puis, il y a aussi une histoire d'amour qui naît dans ce livre-là, qui est presque une sorte de jumelle. Vous parlez de deux éblouissements, en fait. Enfant, vous regardez une montagne et vous vous dites waouh, enfin ado, et vous dites waouh, il y a vraiment quelque chose pour moi. Puis vous racontez la rencontre avec une femme, un peu de cet ordre-là, c'est-à-dire quelque chose auquel vous échappez pas, quoi. C'est une évidence.
Oui.
Et quelque chose se déplie petit à petit, du premier choc inaugural.
Oui, mais l'amour, il faut pas appeler un chat un chat. C'est quelque chose qui vous foudroie quand même, qui vous... C'est pas rien, quoi. Donc on le sait, parce que quand j'ai senti ça, j'ai quitté Berlin, alors que Berlin, c'était un endroit où je me sentais plus ou moins pas trop mal.
Le sens de la mesure. J'adore. C'est plus ou moins et pas trop mal. Donc les gars, on n'est pas non plus dans les cimes, quoi. Hein.
Non, voilà, c'était supportable, on va dire. Et je rencontre une femme qui m'ouvre un nouveau paysage. Donc et depuis qu'on est ensemble, c'est une aventure. C'est une aventure qui fonctionne vraiment, quoi.
Et c'est aussi ce que raconte le texte. C'est hivernage, c'est la possibilité de vivre à deux, isolé de tout. C'est la beauté partagée. On parlait tout à l'heure de Houellebecq qui se sentait exclu de la beauté du monde. Bah là, c'est aussi la manière dont la beauté est décuplée par la possibilité de partager la beauté du monde. Parce que, voilà, vous racontez des moments de marche, d'arpentage, même des moments très quotidiens.
Oui, sans arrêt, des choses quotidiennes. Et c'est d'ailleurs, je n'aurais pas pu vivre là-haut seul. C'est même les Canadiens appellent ça la fièvre des cabanes, cabane fever, hein, parce qu'il y a des gens qui disent je vais aller en montagne ou je vais. Puis souvent,
il y a un homme seul d'ailleurs dans pas très loin de vous.
Yannick, et lui, mais finalement, il tient 2 ans. Et la troisième année, je monte le voir et je vois que ça va pas bien, quoi.
C'est trop dur.
La solitude. On est un animal grégaire quand même depuis toujours. Il faut être un homme des bois, il faut être un chasseur. Il y a que la chasse qui peut vous permettre de tenir seul.
Ou alors d'être très très triste. Vous racontez aussi, Jean-Marc Rochette, que certains vont abriter, vous dites, leur désir de liberté dans les hautes cimes, comme ça, dans les endroits très rudes. Mais il y en a qui vont aussi y planquer des chagrins très anciens, des chagrins très très durs, ou des histoires d'amour, parce qu'il y a aussi, ça se finit très mal pour eux, mais il y a aussi un couple que vous voyez passer et marcher pas très loin de la maison. Donc dans cet hiver, mais plutôt à la fin je crois, il y a une nuit en refuge. Le soleil finit par se cacher derrière les pointes du Vassivier. Leurs ombres naissantes et le froid nous poussent à continuer notre chemin. Un peu de thé chaud, quelques fruits secs, on fixe nos skis. Les lacets du sentier zigzaguent maintenant à travers une forêt escarpée accrochée au flanc de la montagne. Nous gagnons rapidement de l'altitude. Les perspectives se creusent et nos sacs s'alourdissent proportionnellement à l'inclinaison de la pente. Malgré le froid, je suis en nage. Christine serre les dents, les joues rendues cramoisies par l'effort. On laisse les derniers arbres derrière nous. L'épreuve est bientôt finie. Encore quelques virages et on sera arrivé. Le refuge se situe à 2410 mètres d'altitude, donnant plein ouest. Les couchants y sont toujours somptueux. Cette soirée ne va pas déroger à la règle. Le ciel devient fou. Des nuages filaires à l'horizon donnent naissance à une incroyable subtilité de violet, de jaune, de gris. Chaque ton rivalise et pourtant s'harmonise à la perfection dans un chaos maîtrisé d'itérations. Nous sommes les seuls spectateurs de cette représentation cosmique qui d'habitude se joue sans public. La beauté existe-t-elle pour elle-même ? Plus que quelques virages, et on atteint la terrasse du refuge. Un nouvel extrait de votre livre « Au cœur de l'hiver » Jean-Marc Rochette. Ça fait partie des petites aventures qui s'ajoutent à déjà tant de petites aventures quotidiennes pour vivre dans cette maison, parce que c'est toute une histoire de vivre dans cette maison. Mais ça permet aussi de parler de votre recherche infatigable et picturale, celle-ci, du ciel, et de la façon dont là vous évoquez un ciel qui devient fou et toutes ses couleurs. Mais c'est un travail que nous, on voit à l'œuvre, parce que je le disais tout à l'heure, entrecoupé par le texte. Non, c'est plutôt inversement. C'est le texte qui est entrecoupé de peinture. Cette recherche-là, c'est pour la vie, réussir à peindre le ciel des montagnes.
Oui, enfin, j'ai une série que je fais assez souvent, j'appelle ça « Possibilité du ciel », en fait. Parce que quand je regarde le ciel, qu'il soit avec des nuages blancs, avec ou alors évidemment le soir, c'est vraiment une leçon quoi. Il y a une équation, je ne sais pas, tout est magnifique, tout est beau. Donc en fait, c'est l'idée de essayer de comprendre comment ça fonctionne. Il faut savoir que l'alphabet en fait de ce qu'on voit est très très faible. On a trois couleurs primaires. Que des fois le cosmos nous montre avec l'arc-en-ciel et c'est la gamme. Et là-dessus, on voit ce que vous avez lu là, on voit des ciels qui par moments sont. Oui, enfin moi je suis extrêmement sensible à ça. C'est-à-dire que je suis pas lassé.
Ouais.
L'enchantement du monde me touche toujours beaucoup. Mmh. J'ai bientôt 70 ans et je peux pas dire qu'il y a un soir où je me suis dit c'est lassant, comme on est lassé par une série. Donc il y a quand même un mystère là-dessous.
Est-ce que ça a à voir avec le fait que par ailleurs vous peignez ? Vous pensez que de toute façon vous êtes absolument émerveillé par toutes ces possibilités du ciel ? Ou est-ce que le fait qu'il y a aussi quelque chose chez vous qui cherche à le rendre quand même par la couleur, est-ce que ça joue ?
Oui, je pense que le fait de peindre, ça oblige à regarder ça. En fait, j'utilise le terme de valse à deux temps, en fait. C'est qu'on danse avec la nature, le peintre. Enfin, le peintre, il danse, mais il danse pas seul. Il faut qu'il ait en face de lui quelque chose. Donc, on apprend à danser au rythme de la nature. Donc, on essaie de la comprendre. On essaie de comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche, et on n'y arrive pas. Donc, on approche un peu, c'est comme un horizon indépassable. Mais je pense que les gens regardent pas. C'est ça le malheur. Moi, je me souviens d'une fois à l'Alpe d'Huez, j'étais avec Christine. On arrive au troisième tronçon et ça skiait. Donc, les gens skiaient, ils sortaient de la rampe compacte. Et d'un seul coup, on regarde, j'avais un ciel, j'avais jamais vu ça, quoi. Pourtant, ça fait 50 ans, j'avais jamais vu ça. Personne ne l'a regardé.
Mais vous, oui.
Nous, oui. On était deux. Mais enfin, ça fait quand même bizarre de voir 200 personnes se jeter sur des skis et ne pas lever le nez, alors qu'ils avaient une devant eux, ils avaient littéralement un spectacle cosmique qu'on aurait pu être sur Mars.
Il y a quelque chose dans le passage que j'ai lu aussi où quelque chose qui se rajoute à la beauté, à votre émerveillement, c'est l'idée que le plus souvent, cette beauté-là se fait sans spectateur. Et d'ailleurs, cet hiver-là dont vous parlez, Jean-Marc Rochette, et les animaux, et les traces, et même la neige, enfin tout, n'a pas besoin de vous, quoi. Enfin, ça n'a pas besoin de nous. Au contraire, ça a même souvent besoin qu'on soit pas là.
Oui, je pense qu'on a, c'était pas bien qu'on soit là. On empêchait une espèce de restructuration du lieu. C'est-à-dire, en étant humain, j'ai l'impression qu'on aspirait cette beauté et on oubliait. Il fallait la laisser un peu, je sais pas, comme un, il faut que ça se refasse, quoi. C'est bien qu'il y ait des endroits où il n'y a pas d'humains. Ça, on a l'impression qu'on parasite un peu, même notre regard parasite un peu, à moins d'être un très grand poète.
Ah oui, vous croyez ? Jusque-là ? Parce que vous décrivez, voilà, vous décrivez
presque... À moins d'être un très grand poète, c'est-à-dire il faut être transpercé par cette beauté pour ne pas la déranger. Mais autrement, je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sont là, ils tuent la magie, quelque part. Il faudrait renouer avec une magie ancestrale et faire que d'être vivant, c'est déjà extrêmement... C'est bouleversant, en fait.
Ça l'est d'autant plus que dans cet endroit-là, pendant ce temps-là, Jean-Marc Rochette, être vivant, c'est aussi avoir conscience, plus que jamais, de la très grande fragilité de cette vie. Pour soi-même, pour les humains, mais aussi pour les autres vivants qui sont autour. Végétaux et puis animaux, parce que on va dire que c'est les plus saillants. Mmh. Bon. Et ça, c'est quelque chose qui traverse aussi tout le texte. C'est-à-dire qu'il y a, y a la beauté de la montagne, il y a ce projet, il y a vos souvenirs, il y a cette histoire d'amour. Et puis, il y a la mort, partout, qui menace. Il y a l'idée que tout est plus grand que vous, plus fort que vous. Et que parfois, on est à quelques centimètres ou quelques secondes. Par quels événements elle se manifeste, cette menace de la mort, Jean-Marc Rochette, par exemple ?
Dans cet hiver-là, elle s'est manifestée plein de fois. Elle s'est manifestée déjà par l'avalanche. L'avalanche, c'est la grosse menace, en fait, là-bas. La menace, celle qui empêche d'être totalement relâché, c'est l'avalanche, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est un endroit qui est coupé du monde et que les gens ne viennent pas. Donc, c'est l'avalanche, avec malheureusement des accidents. Les animaux aussi, on voit, à l'époque, il y avait les loups, maintenant ils sont partis, mais donc vous voyez des traces de sang. Non, il y a ce sentiment de la mort qui est très présente. Et puis, je sais pas, ou même là, puisqu'on parle de ça, mais même la relation qu'on a à un moment avec la renarde, quoi. Là, c'est la maladie. La maladie grave, enfin la maladie horrible, c'est une renarde qui se fait bouffer par la gale, qui a une faim terrible, quoi. Donc il y a ça aussi, on est proche de toutes ces choses-là. C'est pas du blanc et du bleu, du paradis et tout ça. C'est aussi ce rapport à et oui.
À un moment donné, ça se réouvre évidemment, puisque l'hiver se termine, les routes se réouvrent, il y a un petit peu plus d'humains, puis probablement beaucoup plus à un moment donné, Jean-Marc Rochette. Mmh. Est-ce que ce qui se vit là, dans cette économie si particulière, j'entends vraiment une économie de gestes, de rapport au monde, au vivant, est-ce que ça reste en soi ? C'est-à-dire qu'une fois que les routes, elles ont réouvert, est-ce que l'espèce de flux que vous décrivez là et que vous aimez pas beaucoup de la civilisation humaine, quoi, quand même, qui réussit à réembarquer très rapidement tout ça ? Est-ce que ça vous éloigne rapidement de ce qui s'est tissé de si ténu, de si puissant pendant ces mois-là ?
C'est immédiat, en fait. À partir du moment où la route s'ouvre, et en plus, elle s'ouvre en fanfare, c'est-à-dire qu'elle pourrait s'ouvrir doucement, mais elle s'ouvre avec des caterpillars. C'est pour ça que avec des engins, en fait. Donc, la première apparition de l'humain, c'est des engins qui sont énormes, en fait. Et qui, évidemment, brise une espèce d'harmonie qui existait là, avec, comme je dis, les chamois qui viennent nous voir, etc. Il y a une espèce de petit théâtre dans un lieu clos, et d'un seul coup, la représentation est finie. Et ça ouvre, ça, c'est un coup de couteau, en fait. Et puis après, les gens arrivent, au début doucement, et puis plus rapidement. Et puis nous, on descend aussi, parce qu'on est quand même... on va chercher de la nourriture parce que d'un seul coup on a besoin de voilà, et donc on descend et on voit les gens qui descendent des deux Alpes, de l'Alpe d'Huez, enfin pour les gens qui connaissent, et en fait on est complètement repris par ça, et c'est le silence aussi qui le silence, l'odeur, les odeurs, la voiture, les voitures qui passent, ça sent mauvais quand même, la voiture, les gens, les tensions, les... Ouais, c'est un autre monde. C'est, puis surtout, il y a une telle différence entre ce qu'on vit, ce qui est pratiquement deux Robinson Crusoe, et puis la vie sociale qui est tellement proche, en fait. On n'est pas, c'est pas comme si on était sur les îles des Kerguelen, ou alors là, c'est très très loin, ou là, c'est juste à côté, à 2 kilomètres à vol d'oiseau.
C'est juste que c'est inaccessible.
C'est juste inaccessible, mais à 2 kilomètres à vol d'oiseau, vous êtes aux deux Alpes, et les deux Alpes, c'est 20 000 skieurs jour. Donc il y a une espèce de dichotomie entre ce qui se passe à 2 kilomètres et nous, et d'un seul coup la barrière, je sais plus, il y a un livre où une femme est enfermée dans une ville où autour il y a une espèce de mur de verre qui
le mur invisible
voilà, c'est ça, voilà, et ce mur invisible là il lâche, en fait il casse, voilà, alors c'est évident, en fait, on le sent, et on se remet tout de suite dans l'autre rythme.
Et peindre et écrire, c'est retrouver un petit peu de la solitude ou de ce qui s'est bâti de si précieux pendant cet hiver-là, par exemple.
Peindre et écrire, peindre, c'est surtout essayer de recréer, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, la beauté, quoi. Donc il y a une espèce de on se referme, en fait. C'est vrai que à ce moment-là, à partir du moment où on est dans le secret de l'atelier, le monde n'existe plus, en fait. On a plus mal aux dents quand on peint.
Décidément.
Vous voyez ce que je veux dire, on oublie. Oui, décidément. Ouais.
Décidément, comme avec les RG de l'enfance,
ouais.
Quoi.
Exactement. Ouais.
On va écouter la voix de Gilles, auditeur du Book Club. Il vous a lu et il vous adresse une question.
Bonjour Book Club, bonjour Monsieur Rochette. J'ai aimé toutes les descriptions que vous avez faites. Être embarqué dans votre hivernage était une expérience bien intéressante, plutôt chaleureuse, malgré la rudesse et le froid qui vous entourait. Je sais que vous avez échappé à la mort, comme vous le racontez, en montagne, et que vous étiez fait pour le dessin. Personnellement, maintenant, je sais que vous êtes aussi fait pour l'écriture. Est-ce que vous relancerez un jour dans le roman graphique qui allie très bien les deux? Merci pour votre réponse. Au revoir.
Merci beaucoup à vous, Gilles, pour ce témoignage de lecture et pour cette question. Jean-Marc Rochette.
Oui, c'est effectivement, j'ai arrêté la bande dessinée. J'en ai fait pendant près de plus de 40 ans. Et j'ai arrêté parce que ça me prenait trop de temps. Mais surtout, c'est une question de... Qu'est-ce qui sera le mieux? Si j'ai une histoire, est-ce qu'elle sera mieux en bande dessinée, roman graphique maintenant pour faire plus chic, mais où est-ce qu'elle sera mieux en écriture? Voilà, c'est toute la question. Si j'ai une grande histoire qui m'apparaît comme ça, je dis il faut que je la fasse absolument, et que c'est une bande dessinée, je crois que malgré tout...
Malgré quoi?
Malgré le temps que ça va me prendre, on est toujours sur cette idée de côté besogneux de la bande dessinée. Alors que l'écriture, je vous disais tout à l'heure, j'ai un plaisir à écrire. Pour simplifier, c'est que si vous dites Jean monte les escaliers, ouvre sa porte et rentre dans une pièce, ça c'est de l'écriture. Et en bande dessinée, il va falloir dessiner Jean qui monte les escaliers, qui ouvre sa porte et qui rentre dans la cuisine. Et c'est ça la grosse différence, quoi. Et cette différence, elle est énorme à partir d'un certain moment, quoi.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club. Marie Richeux.
15h50, comme chaque mercredi à 7h, Marie, je viens vous parler de littérature jeunesse. Et pour cette première chronique de l'année, je voudrais vous parler d'un livre qui se lit avec les oreilles. C'est une fiction radiophonique créée par Sabine Zovigian pour le flux de podcasts d'Arte Radio destiné à la jeunesse. Une histoire en un seul épisode de 18 minutes qui s'appelle « Jean-Chat voit dans le noir ». Alors je vois votre œil frisé, Marie, et je devine déjà l'objection que vous allez me faire. Mathilde, on avait dit que dans le Book Club, on parlait de livres. Ton sujet du jour ne m'a pas l'air d'en être tout à fait un. Attendez, Marie. Premièrement, Jean-Chat voit dans le noir, c'est à la fois une fiction radio et un livre paru à l'École des loisirs et des dessins signés Nathaniel Hachlimi.
Mais même si ce n'en était pas un, je veux ici affirmer haut et fort qu'un livre, ça se lit très bien avec les oreilles. Moi, quand j'étais petite, c'est avec les oreilles que j'ai lu Un bon petit diable de la comtesse de Ségur, par exemple, dans une adaptation racontée par Jean-Claude Brialy avec Bernadette Lafont. Je vous assure que ça valait son pesant de cacahuètes. C'est de cette façon que j'ai découvert des tonnes d'histoires, écoutées à l'époque sur des cassettes, que j'insérais dans ce merveilleux lecteur de la marque Fisher-Price, dont ceux de ma génération se souviennent. Ces lectures-là, elles sont gravées en moi avec une intensité qui tient à la puissance de l'imaginaire qui se déploie lorsqu'on écoute un récit et à la richesse du vocabulaire sonore qui s'y déploie lorsque la réalisation est suffisamment soignée. Sabine Zovighian, qui signe donc cette histoire, est une réalisatrice sonore dont on avait déjà remarqué le talent dans cette fiction en 6 épisodes signée Claire Richard qui s'appelle Anne Bonny, la reine des pirates. Toujours pour Arte Radio, je vous la recommande aussi chaleureusement. Jean-Chat voit dans le noir, c'est l'histoire d'un petit garçon prénommé Hector, qui un soir a bien du mal à trouver le sommeil, car son chat, qui s'appelle Jean-Chat, s'est fait la malle. D'habitude, Hector n'a pas peur de s'endormir, car il sait qu'au bout de son lit, Jean-Chat veille sur lui. Plutôt que de passer la nuit sans fermer l'œil, le petit garçon décide de retrouver son chat. Sans réveiller sa mère, il se faufile dehors dans la nuit et va chercher Jean-Chat partout, dans les poubelles, en haut d'un arbre, dans une guinguette où le chat est peut-être allé faire la fête, qui sait. Une histoire toute simple, dont la saveur tient à la richesse sonore que Sabine Zovighian lui offre, accompagnée à la réalisation par Samuel Hirsch et à la musique et au design sonore par Grégoire Terrier. Écoutez par exemple comment, au tout début du récit, en jouant de la rencontre entre plusieurs instruments, des carillons, des ambiances et des bruitages, une séance de brossage de dents se transforme en petit concert symphonique.
C'est le soir. Bientôt le ciel sera tout noir. Une première étoile s'est allumée. Elle est jaune. Presque dorée. Il est 7h30 et tous les enfants se brossent les dents avant d'aller au lit. Tous en même temps. Dans toutes les maisons et tous les appartements.
Pas mal, non ? Il y a aussi la finesse du tissage entre la voix de la narratrice, interprétée par Sabine Zovighian elle-même, et celle d'Hector, Anthony Sayeg, et puis le ton que l'autrice adopte. Il y a une douceur, une tendresse même dans la voix, un souci de clarté aussi, mais jamais, jamais ça ne devient bêta, cucu ou niais. Au final, le plaisir d'écouter cette histoire m'a paru assez proche de celui qu'on prend à écouter une belle chanson. On est emporté par son rythme, on se laisse aller à rêvasser par la grâce des voix, de la mélodie, du tempo. Et d'ailleurs, des chansons dans cette histoire, il y en a. À 3 reprises, Jean-Chat prend la voix de Michaël Lio, Hector l'entend chanter dans sa tête, quelques couplets et un refrain entêtant dans le meilleur sens du terme.
Hector, trésor, tu sais que je t'adore. Ouvre tes oreilles et cherche mes yeux d'or. Écoute bien ma voix. Ce n'est pas la mer à boire. Je compte bien sur toi pour me trouver dans le noir. Hector, trésor, tu sais que je t'adore. Ouvre tes oreilles et cherche mes yeux d'or. Tu dois devenir un chat pour me serrer dans tes bras. Je compte bien sur toi pour me trouver dans le noir.
Vous qui nous écoutez et qui peut-être vous apprêtez dans quelques jours à la fin des vacances, à passer des heures dans les bouchons ou dans un train avec des enfants, vous qui n'avez pas pu partir en vacances et voyez vos bambins commencer à tourner en rond, mettez-leur cette histoire dans les oreilles, elle peut s'écouter des 3 ou 4 ans et elle réjouit aussi quand on a quelques décennies de plus. Elle se trouve sur les plateformes d'écoute, elle peut aussi se charger sur l'enceinte Merlin par exemple. Quant à la chronique Lecture Jeunesse, elle est à retrouver sur le site de France Culture ou sur l'appli Radio France. À
À cette heure-ci, dans le Book Club, on joue avec nos auditeurs et auditrices à un grand jeu qui s'appelle le grand jeu des pages musicales. On cherche de la musique dans les livres. Et cette fois-ci, c'est Lou qui propose un extrait de Stone Butch Blues de Leslie Feinberg, paru en 1993, qui vient de reparaître dans une nouvelle édition, toujours chez Hystérique et Associés. Militante transgenre, communiste, révolutionnaire, juive, laïque, activiste, antiraciste, Leslie Feinberg s'est inspirée de sa propre vie pour écrire ce roman en 1993. Décédée en 2014 après des années de maladie, et elle nous offre, avant de partir, une toute nouvelle édition de Stone Butch Blues. Et c'est aussi une édition qui est disponible intégralement en ligne. On se quitte donc avec un extrait. Un samedi après-midi, après des semaines entières à enchaîner les heures supplémentaires, je me suis réveillée tardivement. Mon appartement était si crasseux qu'il me dégoûtait. La lumière du jour avait déjà pris une teinte grise quand je me suis enfin emmitouflée pour sortir acheter des produits d'entretien. Ruth et moi, on a ouvert nos portes au même moment. On a détourné le regard, embarrassée. Je suis restée en retrait pour la laisser passer. « J'espère que tu trouveras pas ça déplacé », m'a-t-elle lancé sur le palier, « mais comment ça s'appelle la musique que tu as écoutée hier? Tu t'en souviens ?»« Pourquoi ?» lui ai-je demandé du haut de l'escalier. « Est-ce que c'est une manière de me dire que c'était trop fort ?» Il y a eu un long silence. « Non ? » a-t-elle répondu. « Ça m'a plu, c'est tout ? Est-ce que ma question te gêne ?» Si ça ressemblait à de la musique africaine, c'était King Sunny Ade. « Merci », a-t-elle répondu d'un ton sec. J'ai entendu la porte de l'immeuble se refermer.
Appreciation. Modupe, onibuore, babagbo premi. Appreciation. Modupe, onibuore, babagbo premi.
Merci beaucoup, Jean-Marc Rochette, d'avoir été avec nous pour parler de Au cœur de l'hiver, paru dans la maison d'édition Les Étages Éditions. Et j'avais aussi à côté de moi un livre très beau qui s'appelle Débâcle. Vous êtes avec Jérémy Villet et c'est toujours aux Étages Éditions. Un grand merci à Noé Chaban qui était au son. À la réalisation, c'était June Loper. Grand merci aussi à toute l'équipe du Book Club de France Culture. Mathilde Wagman, Oriane Mignot, Cyril Marchand, Jeanne Aléos, Marianne Chassor et Alexandre Alaï-Begovic. Tout ce beau monde se joint à moi pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette année 2025 qui commence. Vous pouvez réécouter l'émission via l'application Radio France, toutes les autres émissions, et puis on peut aussi s'écrire via le compte Instagram du Book Club ou l'adresse mail. Envoyez-nous vos vœux, vous aussi, lebookclub@radiofrance.com.
Question du soir, première partie, une discussion, un débat, comment reconstruire la société syrienne.
Quentin l'a fait.
Et puis dans l'actualité des idées et de la recherche pour cette première de l'année, on va s'intéresser à un sentiment positif, l'amour. Comment tomber en amour, on tentera de le comprendre à travers l'histoire de la littérature.
Question du soir, du lundi au vendredi à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Cette semaine, LSD se met à table.
Jean Anthelme, Brias Savarin. 1825.
Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Mais c'est tellement ça. ça dit des choses, des univers dans lesquels on a grandi ou dans lesquels on aime vivre.
LSD, la série documentaire « Manger la France » d'Élodie Maillot, réalisée par David Jacoboviez, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Il est 16h sur France Culture, l'heure de vous retrouver.